Alors, j'aimerais qu'ensemble, nous ouvrions la parole de notre Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 4, les versets 17 à 32. J'ai une question, c'est que chacun pourrait se poser aussi. C'est pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi Dieu a-t-il voulu que je sois chrétien? Et qu'est-ce qui me diffère de ceux qui ne le sont pas? Et je pense que chacun pourrait se poser cette question-là pour lui-même. Et qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant que chrétien? Comment vivre cette vie chrétienne au quotidien? Et ce texte d'Éphésiens chapitre 4 nous rappelle cela, nous donne des réponses aussi par rapport à ces questions. Dans cet épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, il avait dans un premier temps expliqué que Dieu, dans sa grâce, a sauvé des hommes et des femmes, qu'il les a choisis avant même la fondation du monde. Il dit que c'est pour qu'ils soient saints et irréprochables devant lui. Mais aussi, il explique que Dieu n'a pas voulu que ces personnes qu'il a sauvées vivent seuls, de manière isolée. Il a voulu former un seul corps, il dit un homme nouveau, et il dit ce corps a pour tête le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ces chapitres 4 à 6, il explique comment le chrétien peut avoir une vie qui soit digne de son appel. Et c'est au début du chapitre 4, c'est ce qu'il dit. Il dit « Marchez d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Et dans la première partie du chapitre 4, il met l'accent sur l'unité de l'Église, qu'il est important que le chrétien conserve l'unité de l'Église, cette Église, ce corps que Dieu s'est formé grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Il nous a tous mis, il nous a placés dans ce corps et nous formons son temple, il est dit. Et l'autre chose, c'est que Dieu nous a sauvés aussi parce qu'il nous appelle à une vie de sainteté. Il dit que Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et dans la deuxième partie de ce texte d'Éphésiens chapitre 4, donc les versets 17 à 32, l'apôtre Paul va mettre l'accent sur la nécessité pour le chrétien de rechercher cette sainteté, puisque c'est à cela qu'il est appelé. Et donc, on peut se poser la question, comment ma vie, est-ce que ma vie a changé depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Comment ma vie a évolué? Est-ce que je continue à pratiquer les mêmes choses que je faisais avant ma vie chrétienne, avant que je sois chrétien? Est-ce que les autres voient les changements dans ma vie? Les proches, les collègues? Est-ce que je continue à agir, à parler comme je le faisais avant que je sois chrétien? En tout cas, l'apôtre Paul va nous dire dans ce passage que si il n'y a pas de changement dans notre vie entre le temps où nous n'étions pas chrétiens et maintenant, il va nous dire qu'il y a un problème et qu'il faudrait réfléchir à cela. Et il va expliquer quelle différence qu'il y a entre un non-chrétien et un chrétien. Et pour nous appeler à rechercher cette sainteté que Dieu veut. Donc j'aimerais vraiment nous encourager à rechercher cette conduite sainte dans notre vie de tous les jours pour que nous ayons une vie qui soit digne de notre appel comme le Seigneur le désire. Donc j'aimerais que nous lisions ensemble ce passage d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, nous pouvons nous arrêter là pour la lecture. Vous voyez que là, l'apôtre Paul, après avoir rappelé dans les 16 premiers versets l'importance de conserver, de maintenir l'unité de l'Église, et il donne les raisons, parce qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Père, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi. Il dit à chacun de mettre ses dons au service des autres. Le Seigneur nous a donné des dons. Il nous a donné aussi des personnes qui peuvent nous conduire pour nous enseigner. Et tout cela pour que chacun puisse grandir dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Maintenant, il veut maintenant revenir sur cette notion de sainteté que nous sommes appelés à rechercher constamment dans notre vie. Et dans ce texte, nous voulons voir que pour avoir une vie sainte, il donne deux raisons, je veux souligner deux raisons. Non seulement, il dit que nous ne sommes plus des païens, c'est fini, ça c'était avant. Maintenant, vous n'êtes plus des païens, donc les païens, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu, et dit maintenant, vous êtes des enfants de Dieu. Et l'autre raison, c'est que nous sommes unis à Jésus-Christ. Et après, dans les versets 25 à 32, je vois là la nécessité de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour manifester cette vie sainte au quotidien. Nous ne sommes plus des païens, il est dit dans ces premiers versets. L'apôtre Paul, il veut souligner là aussi l'autorité qu'il a que le donne le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'apôtre, et tout comme pouvaient le faire Pierre et les autres pour dire « Voici ce que je vous déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. » Et en cela seulement, il dit que une fois que vous avez dit que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur, en plus vous l'avez témoigné publiquement en passant par les eaux du baptême, vous ne devez plus continuer à vivre comme vous viviez avant. Après, il donne plusieurs exemples, des choses qu'on pouvait faire avant et qu'on ne doit plus faire. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Alors, il dit, pourquoi on ne doit plus marcher comme les païens? Il dit, c'est parce que ces païens, donc les païens, ce sont les inconvertis. Et là, il y a cette description qui est faite de ceux qui ne sont pas chrétiens, et cette description qui nous traduit aussi ce que nous étions avant notre conversion. Et là, ça rappelle que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ne le sont pas. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu a usé de sa grâce et il nous a sauvés. Mais en lisant cela, nous voyons comment Dieu définit l'inconverti, et il nous rappelle indirectement comment nous étions, nous, avant d'avoir répondu à la grâce. Donc, rechercher cette sainteté, nous rappeler que, en tant que chrétiens, nous ne sommes plus des inconvertis. En tant que chrétiens, nous ne devons plus chercher, quand il dit marcher, c'est ceux qui vivent, c'est leur conduite. Nous ne devons plus vivre comme vit un inconverti. Nous ne devons plus nous laisser influencer par la pensée des inconvertis. Nous ne devons plus nous laisser dominer par les choses qui peuvent dominer les inconvertis. Et là, il nous dit que les inconvertis marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alors si nous prenons le temps de regarder autour de nous, ce que nous voyons à la télévision, nous voyons sur Internet, nous entendons dans les conversations avec les collègues, parce que nous ne sommes pas retirés du monde, nous sommes dans le monde, nous les entendons parler, nous voyons leur langage, nous voyons leurs pratiques, ils expriment leurs pensées. Alors, toutes ces choses-là qui caractérisent ce monde, l'apôtre Paul et le Seigneur nous dit que ça ne doit plus vous caractériser. C'est fini tout ça. Avant, vous étiez comme ça. Maintenant, c'est fini. Et en tant que chrétien, vous devez pouvoir dire non à cette façon de faire, de penser, d'agir des inconvertis. Et ne pas y adhérer, ne pas dire finalement, ça ne me dérange pas, c'est comme ça, c'est pas si mal, etc. Dieu dit non. Et en lisant cela, le Seigneur nous rappelle aussi d'où il nous a attirés, d'où il nous a pris pour faire de nous ses enfants. Dans le chapitre 2, il le disait aussi au verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Voilà, donc l'apôtre Paul nous rappelle que voilà, nous étions comme eux. Donc, en disant ça, nous voulons pas dire nous sommes supérieurs à eux. C'est comme ça que nous étions. Mais nous voyons la grâce de Dieu envers nous, qui nous a sortis de ce bourbier dans lequel nous étions, qui nous a délivrés pour faire de nous ses enfants. Maintenant, il nous dit, je vous ai sortis de là, c'est pas pour que vous y retourniez. Je vous ai sortis de là, c'est pas pour que vous disiez amen à tout ce que vous voyez dans ce monde, et que finalement, à force de voir que vous pensiez que finalement c'est pas si mal que ça. Si je vous ai sorti de là, c'est parce que j'en ai horreur de toutes ces choses-là. Et donc voilà la description qui est faite des inconvertis. Et Dieu nous dit, nous étions comme cela. Mais sa lumière est venue et Dieu nous a éclairés grâce à sa parole qu'il nous a donnée, Jésus-Christ qui est venu apporter la lumière dans notre vie. Et nous ne sommes plus dans l'obscurité. Donc nous ne sommes plus des païens. L'autre chose qu'il dit, c'est, il dit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est beaucoup de choses, hein? L'apôtre Paul nous dit maintenant, voici une réalité, c'est que vous êtes unis à Jésus-Christ. Depuis que vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez entendu ce que Jésus-Christ a fait pour vous, vous avez accepté par la foi ces vérités, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous êtes depuis devenu membre du corps de Christ. Par à votre conversion, vous avez dit non, vous avez rejeté cette vie passée, vous vous êtes dépouillé de toutes ces choses mauvaises qui déshonorent Dieu. Par la foi, vous avez dit cela, je ne veux plus cette vie-là, et Dieu vous a lavé, Dieu vous a purifié, Dieu vous a sanctifié. Quand il dit par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et le Seigneur nous a renouvelés. Il nous a donné un habit propre. Il a fait de nous un homme nouveau. Il nous a transformés. Et ça, c'est déjà une réalité spirituelle parce que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et donc, il y a déjà ce que Dieu a déjà fait. Et dans notre vie de chaque jour, il voudrait que nous comprenions de ce qu'il a déjà fait pour nous et que nous, dans notre vie, que nous puissions progresser jour après jour pour que ce que nous voyons, ce que les autres voient en nous soit conforme à ce que lui, il a déjà fait pour nous. Et donc, le fait d'être unis à Jésus-Christ nous oblige aussi à renoncer à toutes ces choses de ce monde, à toutes les choses mauvaises que ce monde peut nous proposer. Et c'est là un réel défi pour nous. Et pour passer du païen à cet homme ou cette femme unie à Jésus-Christ, c'est la conversion. C'est le moment où on accepte Jésus-Christ dans notre vie comme sauveur et Seigneur. On reconnaît que nous sommes pécheurs, on reconnaît que nous sommes perdus et qu'on demande pardon à Dieu pour nos péchés et qu'on accepte, on lui dit oui, qu'on croit que Jésus-Christ est lui le Fils de Dieu et que c'est par lui qu'on peut être sauvé selon la parole de notre Dieu. Et c'est comme ça qu'on devient cet homme nouveau, il est dit, et c'est comme ça que le Seigneur nous dépouille de cette vie passée. Il renouvelle notre intelligence, il nous permet de voir les choses différemment, il nous permet de voir les choses qui se font et puis de dire à la lumière de sa parole que c'est pas ce que Dieu veut et comment Dieu veut que les choses se passent. Donc le Seigneur opère ce dépouillement en nous lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous mettons notre foi en son Fils Jésus-Christ. Alors une fois que il l'a fait, nous avons entendu parler du Seigneur Jésus, nous avons été instruits. Il est dit, et c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est tout ce que nous apprenons dans la parole de Dieu. Et lorsque nous venons à l'église, nous apprenons aussi. Alors, une fois que nous avons tout ça, le Seigneur met aussi le doigt sur notre vie, des choses sur le doigt, sur les choses que nous pouvons faire qui ne le glorifient pas. D'où le verset 25, quand il dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Et si vous mettez en colère, il dit « Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, etc. » Donc, l'apôtre Paul, là, il dit, puisque maintenant vous n'êtes plus considérés comme des païens, puisque maintenant vous êtes enfants de Dieu, puisque vous êtes unis à Jésus-Christ, alors c'est pourquoi renoncez. Arrêtez de pratiquer, arrêtez de continuer à faire des choses que vous faisiez dans le passé, avant votre conversion, puisque maintenant, vous êtes des chrétiens. Donc, il souligne des choses qu'on pouvait faire avant et que maintenant, on ne doit plus faire. Et à chaque fois, il donne aussi des raisons pourquoi on ne doit plus le faire. Et au verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, puisque... on attriste le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu. Dans Éphésiens chapitre 1, il a dit que après avoir entendu l'évangile de notre salut, en lui nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc nous recevons l'Esprit de Dieu lorsque nous nous tournons vers Jésus-Christ, nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur. Et à partir de là, nous devons tout faire pour honorer notre Seigneur. Et lorsque nous continuons à pratiquer des choses de notre vie passée ou à dire oui à ce que Dieu dit non, quand Dieu dit non et que nous on dit finalement c'est pas si non que ça, c'est oui, alors nous attristons le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Et pour progresser dans la sainteté, pour honorer notre Seigneur dans notre vie de chaque jour, il y a des décisions à prendre. L'apôtre Paul, il souligne notre responsabilité. Il dit que c'est à nous de dire, voilà, je renonce au mensonge. Si on avait l'habitude de mentir, et si ça faisait partie de nous, on doit dire, non, je renonce à cela. Et on doit le mettre devant le Seigneur. Je suis un menteur. J'arrête pas de mentir pour rien, etc. Seigneur, libère-moi de cela. Et le Seigneur nous libère de ce péché. Là, il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Il dit pas, là, il y a une différence, au fait, entre ce verset 26, si vous mettez en colère, ne péchez point, et le verset 31, quand il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, etc., disparaissent du milieu de vous. Là, il parle de deux types de colère. Il y a une colère juste et une colère injuste. Le verset 31, il parle de cette colère injuste, qu'il faut renoncer, que ça doit disparaître. Quand on se met en colère pour tout et n'importe quoi, ça doit disparaître. Mais il dit, si vous mettez en colère, le verset 26, ne péchez point. Pour parler, souligner qu'il y a cette juste colère. Cette colère qui, lorsque nous voyons que le mal est là, que le mal domine, lorsque nous voyons des injustices, lorsque nous voyons des choses où la parole de Dieu n'est pas honorée, où le mal prend de plus en plus de place, ça ne doit pas nous laisser insensibles. Ça doit nous mettre en colère. Mais c'est pas une colère qui va nous pousser à aller faire du mal, à prendre les armes, je sais pas moi, ou bien à dire des choses mauvaises. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est mis en colère. C'est l'exemple qu'il donne. Lorsqu'il était près du temple, il voyait les gens qui vendaient, qui achetaient, ils faisaient plein de commerce. Il s'est mis en colère, il a tout renversé. Il a dit que vous ne ferez pas de la maison de mon père une maison de voleurs, de brigands. Il n'a pas péché en le faisant. Il y a cette sainte colère, cette juste colère. Et lorsque nous voyons le mal, lorsque nous voyons des choses qui sont injustes, ça ne doit pas nous laisser insensibles. Et il dit, ne péchez point, parce qu'il y a cette nature pécheresse en nous, qui fait que lorsque nous voyons cette chose injuste, on a envie de, et c'est en ça que certains parfois se trompent, envie de faire justice soi-même, ou on a envie de faire quelque chose pour enlever cette injustice, et en voulant faire cette, soi-disant cette justice, on commet l'injustice. Et donc il dit, ne péchez point. Et si vous mettez en colère, le Seigneur, par rapport à tout ce qui est juste et on voit qui ne se fait pas, alors nous le remettons au Seigneur. Nous demandons au Seigneur de permettre que les choses puissent s'améliorer, que nous montrer comment nous pouvons faire. Mais on ne doit pas être insensible par rapport au mal. Le mal ne doit pas nous laisser indifférents. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Ce qui est aussi est frappant dans tout cela, c'est dans le cadre aussi de l'Église. C'est-à-dire que, entre chrétiens, parmi nous, c'est les choses qui ne doivent pas se trouver. Il parlait avant de maintenir l'unité de l'Église. Et cette unité se voit aussi lorsque nous sommes dans la vérité, lorsque nous nous aimons les uns les autres, etc. Alors, renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Disons, parlons-nous selon la vérité. Peut-il y avoir des voleurs parmi nous? Peut-il y avoir des gens qui parlent et qui disent un peu n'importe quoi et puis... On a dit, il faudrait que celui-là, il apprenne à se taire un peu. Non. Et tout cela, dans l'Église, c'est des choses qui ne devraient pas se faire. Donc, l'apôtre, il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour le repas. Nous allons échanger, nous allons parler. Voilà, est-ce que nous faisons attention que ce qui sort de notre bouche puisse communiquer une grâce et non pas être une parole qui blesse. Nous allons échanger, nous allons écouter, nous allons... Voilà, est-ce que... Ne pas oublier que le Saint-Esprit de Dieu est en nous et que nous ne devons pas l'attrister par nos réflexions, par nos pensées, etc. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Donc, là encore, on peut, à cause de cette vieille nature, dire une chose qu'il ne faudrait pas. On le reconnaît, je te demande pardon, mais... ne gardons pas d'amertume, ne gardons pas des mauvaises pensées Mais comme l'est dit, soyons bons les uns envers les autres. Tout cela, c'est dans le contexte de l'Église. Rechercher la sainteté dans notre vie de tous les jours, que nos proches voient les changements que Dieu opère en nous, que nos collègues aussi. Mais vous savez, c'est pas seulement aux Éphésiens que l'apôtre Paul parle de cela. Par exemple, dans Colossiens, on peut prendre Colossiens chapitre 3. Je vais lire les premiers versets avec vous. Si donc, Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, donc c'est ce qu'il reprend aux Colossiens. Un Thessalonicien, alors lisons aussi un Thessalonicien, chapitre 4. Il dit au verset 1, 1 Thessaloniciens 4, verset 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Voilà. Donc, oui, frères et sœurs, recherchons cette sainteté, continuons à vouloir honorer Dieu dans notre vie, parce que c'est pour cela qu'il nous a sauvés. Et comme il est dit dans Hébreux chapitre 12, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification » sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous, et il fera son œuvre, il nous transformera jour après jour à l'image du Seigneur Jésus-Christ, et l'unité, la paix, va demeurer aussi parmi nous. Voilà, que le Seigneur nous bénisse.